Chapitre 8. Nicole se pencha pour observer son reflet dans le miroir du lavabo. Elle suivit des doigts les rides creusées sous ses yeux, puis lissa sa frange grise. « Tu te fais vieille ?» se dit-elle avant de sourire et de reculer vers le milieu de la pièce. Elle se tourna pour voir sa silhouette de dos. La robe verte qu'elle comptait mettre pour la cérémonie moulait un corps toujours athlétique malgré le passage des ans. « Pas trop mal. Ali ne devrait pas avoir honte de sa mère. » Elle regagna la chambre pour prendre sur la table de chevet les deux photographies de Geneviève et de son mari données par Kenji Watanabe. « Je n'étais pas présente à tes noces et je n'ai jamais rencontré ton compagnon. » En proie à de vives émotions, elle alla chercher un cliché de Simone et de Michael O'Toole pris au point nodal le jour de leur mariage. « Quant à toi que j'ai quitté une semaine plus tard, tu étais jeune, mais en bien des domaines plus mûr qu'Ali. » Elle laissa la pensée en suspens. De tels souvenirs étaient pénibles, et s'intéresser au présent serait plus sain. Elle décrocha du mur une photo d'Ali. « Ma troisième fille se marie. Je n'arrive pas à le croire. Tout va trop vite. » Des images de sa cadette traversèrent son esprit. Un nouveau-né couché près d'elle dans Rama 2. Une petite fille bouche bée dans la navette qui approchait un point nodal. Une adolescente qui s'éveillait d'un très long sommeil. Et finalement, une jeune femme déterminée qui s'adressait avec courage au Sénat du Nouvel Éden pour apporter son soutien au docteur Turner. Après ce bref voyage dans le passé, Nicole raccrocha la photo et entreprit de se changer. Elle venait de suspendre sa robe dans la penderie lorsqu'elle entendit un bruit étrange, comme si quelqu'un pleurait dans le lointain. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-elle. Elle tendit l'oreille. Il n'y avait plus rien, mais quand elle se leva, elle eut l'impression surnaturelle que Geneviève et Simone étaient près d'elle. Elle regarda de toutes parts et obtint la confirmation qu'elle était seule dans la chambre. Qu'est-ce qui m'arrive? Le surmenage, peut-être? L'affaire Martinez et le mariage d'Ali ont fait sauter un fusible. À moins que ce soit une nouvelle expérience psychique. Elle contrôla sa respiration pour se détendre, mais elle avait toujours l'impression d'avoir ses filles aînées à ses côtés. Peut-être sont-elles venues me rappeler que j'avais oublié de faire les recommandations d'usage à Ali. Son petit rire nerveux fut accompagné de frissons. Pardonnez-moi, mes chéris. Je vous promets que dès demain... Cette fois, le doute n'était plus permis. Elle venait d'entendre un hurlement. L'adrénaline satura son organisme et elle courut vers le cabinet de travail.
Richard, as-tu entendu ce...
Elle ne termina pas sa phrase. Son mari était assis sur le sol au sein d'un désordre impensable. Entouré par deux moniteurs et un monceau de matériel électronique, il tenait dans une main le prince Hal et dans l'autre l'ordinateur de poche de l'expédition Newton. Trois Biot, deux Garcia et un Einstein, en partie démontés, étaient penchés vers lui.
« Oh, salut ma chérie. Que fais-tu là? Je croyais que tu dormais. » « Un avion a crié il y a moins d'une minute, très près d'ici. »
Elle hésita, ne sachant si elle devait lui dire qu'elle avait en outre cru sentir la présence de Geneviève et de Simone.
« Je n'ai rien entendu, »
déclara Richard avant de s'adresser aux biotes. « Et vous ?» Ils secouèrent la tête, y compris l'Einstein à la poitrine béante, reliée par quatre câbles au moniteur.
« Je n'ai pourtant pas rêvé !»
insista Nicole.
« Au fait, pourrais-tu me dire à quoi rime ce désordre ?»«
Ça ? Oh, rien de spécial. Un nouveau projet. »«
Tu mens. Qu'est-ce que tu mijotes ?»
Il jeta un coup d'œil aux écrans et secoua la tête.
« Je n'aime pas ça, »
marmonna-t-il.
« Pas du tout. Tu n'aurais pas consulté mes fichiers par hasard ?»«
Bien sûr que non. »
Je ne connais même pas le code d'accès. Et ce n'est pas de cela que je voulais te parler. Quelqu'un l'a fait, grommela-t-il en lançant un programme de vérification. Au moins 5 fois en 3 semaines. Tu es bien sûr que ce n'est pas toi?
Évidemment.
N'essaie pas de détourner la conversation. Dis-moi ce que tu fais.
Il posa le prince Hal et la regarda dans les yeux.
Il est trop tôt pour en parler, ma chérie. Accorde-moi 2 jours.
Bien que troublée, elle lui sourit.
Entendu. Si c'est un cadeau de mariage pour Ali, je peux attendre.
Richard se remit au travail et Nicole s'assit dans le seul fauteuil non encombré de matériel. Consciente de sa lassitude, elle se persuada que le hurlement était le fruit de son imagination.
« Chérie, »
fit-elle 1 minute plus tard.
« Oui. Tu ne te demandes jamais pourquoi les créateurs de Rama nous laissent livrer à nous-mêmes ? La plupart des colons ont oublié qu'ils voyagent dans un vaisseau interstellaire construit par des extraterrestres. L'intervention de l'aigle ou d'une autre manifestation de leur technologie supérieure suffirait pour que nos problèmes... »
Elle s'interrompit. Richard riait.
« Qu'est-ce qui te prend ?»
lui demanda-t-elle.
« Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Michael. »
Il était irrité parce que je mettais en doute le témoignage oculaire des apôtres, et il a grommelé que, conscient du scepticisme des hommes, Dieu aurait dû prévoir des retours périodiques du Christ ressuscité.
« La situation était différente, »
rétorqua Nicole.
« Pas tellement.
Ce que les premiers chrétiens racontaient sur Jésus devait être aussi difficile à croire que notre description du point nodal et du voyage que nous avons fait. » Se dire que Rama a été fabriqué par l'ASI pour procéder à une expérience est en fin de compte plus rassurant. Peu de gens ont un bagage scientifique suffisant pour comprendre que les hommes ne disposent pas d'une technologie assez avancée pour pouvoir construire un tel vaisseau.
Il serait donc vain d'essayer de les convaincre.
Elle fut interrompue par un triple bourdonnement qui annonçait un appel urgent. Elle alla répondre. Elle vit apparaître sur l'écran le visage de Max Puckett qui lui annonça
« La situation est devenue explosive autour du centre de détention. Entre 70 et 80 individus venus, pour la plupart d'Aconé, veulent lyncher Martinez. Ils ont détruit 2 Garcia et endommagé 3 autres biotes. Mishkin essaie de les ramener à la raison, mais ils s'en foutent de rage. J'ai cru comprendre que Mariko Kobayashi venait de se suicider. »
Nicole avait enfilé un survêtement. Richard tenta en vain de la retenir.
« C'est ma décision qu'il conteste, »
lui rappela-t-elle en enfourchant sa bicyclette.
« C'est à moi d'en assumer les conséquences. »
Elle rejoignit la piste cyclable, puis accéléra. À cette allure, elle atteindrait le centre administratif dans 4 ou 5 minutes, 2 fois plus vite que si elle avait attendu un train de nuit.
« Kenji a eu tort, »
se dit-elle.
Nous aurions dû tenir une conférence de presse pour justifier cette mesure.
100 de colons s'étaient réunis sur la Grand Place, devant la prison où Pedro Martinez était détenu depuis que Mariko Kobayashi l'avait accusé de viol. Au sommet des marches, le juge Mishkin utilisait un mégaphone pour s'adresser à la foule. 20 biotes, des Garcia et quelques Lincoln et Tiasso formaient un cordon de sécurité pour le protéger des manifestants.
« Allons !» disait-il. « S'il est coupable, il sera condamné. Mais notre constitution lui garantit un procès équitable. »«
Ferme-la, vieux débris !»
cria quelqu'un.
« Nous voulons Martinez !»
hurla un autre homme. Sur la gauche, 6 jeunes orientaux improvisaient une potence. La foule les acclama quand l'un d'eux passa une corde munie d'un nœud coulant sur la barre transversale. Un japonais corpulent d'une 20aine d'années s'avança.
« Écarte-toi, vieillard, et emmène avec toi ces tarés mécaniques. Cette affaire ne te concerne pas. Nous sommes venus venger l'honneur de la famille Kobayashi. »«
N'oubliez pas Mariko !»
cria une femme. Ils entendirent un bruit sourd. Un jeune homme aux cheveux roux venait de frapper une Garcia au visage avec une batte de baseball en aluminium. La biote défigurée avait perdu ses yeux, mais elle resta à sa place dans le cordon de sécurité.
« Les biotes sont programmés pour être non-violents.
dit le juge Mishkin.
Mais les détruire est un acte gratuit et insensé.
Deux hommes arrivèrent en courant d'Akoné et la populace s'intéressa à eux. Moins d'une minute plus tard, tous ovationnaient deux douzaines d'adolescents qui apportaient des troncs d'arbres.
« Nous allons nous débarrasser des machines qui protègent cet assassin !»
cria un japonais.
« C'est ta dernière chance, vieille peau. Écarte-toi si tu veux pas être blessé !»
Des membres de l'assistance allaient prêter main forte aux porteurs de béliers quand Nicole arriva. Elle descendit de bicyclette et franchit la ligne de Biot pour rejoindre Mishkin. Elle prit le mégaphone et cria
« Hiro Kobayashi, je suis venu vous dire pourquoi Pedro Martinez ne sera pas jugé par un jury populaire. Pourriez-vous avancer? J'aimerais vous voir. »
Un homme qui s'était jusqu'alors tenu en retrait gagna lentement le bas des marches.
« Kobayashi-san ? »
lui dit-elle.
« J'ai été très peiné d'apprendre la mort de votre fille. »
« Hypocrite !»
cria quelqu'un. Et la foule murmura.
« En tant que mère, j'imagine aisément à quel point le décès d'un enfant doit être insoutenable. Mais notre constitution stipule que tout citoyen du Nouvel Éden doit bénéficier d'un procès équitable. Et dans le cas de M. Martinez, je suis convaincu qu'il serait impossible de trouver des jurés impartiaux. »
Des huées et des sifflements l'interrompirent.
Les juges ont pour tâche de faire appliquer la loi en se basant uniquement sur des faits établis. C'est pourquoi j'ai renvoyé l'affaire Martinez devant une cour spéciale composée de magistrats. Eux seuls pourront tenir compte de tous les éléments dont certains n'ont pas encore été rendus publics.
Nous savons que ce salaud est coupable,
répondit Kobayashi.
Il a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec Mariko. Et vous semblez oublier qu'il avait déjà violé une fille au Nicaragua. Pourquoi le protégez-vous? Ma famille réclame justice.
Parce que la loi...
Un grondement de la foule couvrit ses paroles.
Nous voulons Martinez! Nous voulons Martinez!
Les cris s'amplifièrent lorsque des hommes soulevèrent les troncs. Un des béliers improvisés était plus lourd qu'ils ne l'avaient pensé, et ils reculèrent, heurtant au passage le monument qui indiquait la position de Rama. La sphère se brisa, et les diodes qui matérialisaient les étoiles s'éparpillèrent sur le sol. Le petit point clignotant représentant leur vaisseau vola en éclats.
« Citoyens du Nouvel Éden !»
cria Nicole dans le mégaphone.
« Écoutez-moi ! Il y a un fait que vous ignorez, et si vous acceptiez de... »«
À mort, sale négresse !»
cria le rouquin qui avait frappé la Garcia avec une batte de baseball. Elle le foudroya du regard.
« Qu'avez-vous dit ? »
gronda-t-elle. Les cris s'interrompirent. Le jeune homme était isolé. Il jeta des coups d'œil autour de lui avec nervosité, puis sourit et répéta.
« À mort, sale négresse !»
Nicole descendit les marches et la foule s'écarta.
« Recommence, si tu l'oses !»
le mit-elle au défi.
« À mort !»
Elle le gifla, avec tant de force que le bruit fut audible d'un bout à l'autre de la place. Elle faisait demi-tour pour remonter auprès de Mishkin, quand des mains la saisirent. Le rouquin serra son poing. Et deux détonations retentirent. Alors que tous restaient interdits, deux nouveaux coups de feu claquèrent.
« Ce n'est que moi et mon fusil !»
annonça Max Puckett, qui avait pris le mégaphone.
« Maintenant, lâchez Madame le juge et rentrez chez vous !»
Nicole se dégagea, mais les manifestants ne se dispersèrent pas. Max leva son arme et visa la potence. Il tira et le nœud coulant vola en éclats.
« Je vous avertis que je suis pas aussi patient que ces juges »
cria-t-il.
« Je ne tiens pas à faire un massacre, mais... »
Il braqua son arme sur la foule. Les gens se baissèrent et la décharge de chevrotine passa à un mètre au-dessus de leur tête. Max éclata de rire en les voyant détaler. Nicole ne pouvait s'endormir. Elle revivait sans cesse cette scène. Elle se voyait avancer au sein de la foule pour gifler le rouquin.
« Je ne vaux pas mieux que lui »,
se reprochait-elle. « Tu ne dors pas ?» lui demanda Richard.
«
Ça va ?»«
Non, ça ne va pas. Je m'en veux d'avoir frappé ce type. »
Il l'avait bien cherché. Il venait de t'insulter, et les connards dans son genre ne respectent que la force. Il se pencha pour lui masser le dos. « Seigneur, tous tes muscles sont noués.
Je m'inquiète, Richard. J'ai l'impression que la trame de notre existence s'effiloche et que tous nos efforts sont vains.
Tu as fait ton mieux, ma chérie. N'oublie pas que ce sont des humains. Si on leur offre un paradis, ils y débarquent avec leurs peurs et les préjugés propres à leur culture. Un monde ne peut être véritablement nouveau que si sa population n'a pas subi un conditionnement préalable, comme des ordinateurs qui n'ont reçu aucun logiciel, pas même un système d'exploitation. Nicole réussit à sourire.
Tu n'es guère optimiste.
Je n'ai aucune raison de l'être. Rien ne laisse espérer que les hommes sont capables d'établir des rapports harmonieux avec leurs semblables, et encore moins avec d'autres créatures. Pris séparément, quelques individus surmontent les tendances ataviques de l'espèce, mais ce sont des exceptions.
Je ne suis pas de cet avis. Je pense que tous cherchent cette entente, mais ignorent comment la trouver. Voilà pourquoi il faut les éduquer et leur donner l'exemple.
Même ce rouquin ? Tu penses qu'il pourra apprendre la tolérance ?
Je dois absolument le croire.
Richard toussa.
Ou rit. Qu'y a-t-il ?
S'enquit Nicole. Je viens de me demander si Sisyphe n'a jamais tenté de se convaincre que la fois suivante, le rocher finirait par rester au sommet de la montagne. Elle sourit.
Si nous ne l'avions pas cru nous aussi, nous n'aurions jamais agi comme nous l'avons fait.